on grandit en sachant que ça arrivera tôt ou tard. On te parle de ton futur mari. Et moi, c'est comme si en fait j'avais le cerveau anesthésié. J'ai pas pensé à me rebeller ou à dire quoi que ce soit. C'est que ça arrivera quand ça arrivera. Mais en attendant, je vis. Je me souviens être rentrée, je rentrais de la piscine fatiguée. Et j'ai trouvé toutes mes tantes, les copines de ma mère, dans le salon, en train de faire le partage, distribuer des colas. Et quand je suis rentrée, on m'a dit « Ah bah ça y est, t'es officiellement, ça a été fiancé. » Les amis avec qui j'étais au lycée, elles n'étaient pas au courant. Je leur ai dit que voilà, 24 ans après, pendant que vous étiez en train de fêter votre BEP, je dis « Pour moi, je passais à l'abattoir. » Il y a eu un moment, à chaque fois que je rentrais du travail, en fait, dès que j'arrivais devant mon immeuble, en fait, je me mettais à pleurer parce que je savais qu'en rentrant à la maison, j'allais me prendre des remarques, me faire battre ou me faire maltraiter. Enfin, ce que Dieu a fait pour moi, c'est ma sortie de l'enfer.
On dit souvent que toutes les petites filles rêvent de se marier. Mais imaginez-vous un seul instant que ce rêve devienne une réalité. Que votre sort soit scellé à un âge où vous jouez encore à la poupée. Que le prince charmant n'ait rien de très aimant. L'histoire que vous vous apprêtez à écouter reflète une époque révolue, mais qui a existé. Durant quelques instants, Mariam nous ouvre les portes de son intimité, de sa culture, de sa famille. C'est une traversée douloureuse dans un passé pas si lointain pour une femme qui revient de très, très loin. Pour bon nombre d'entre vous, les faits vous sembleront probablement inédits, incompréhensibles. C'est fort possible. Mais je vous demande de la miséricorde, de l'amour et bien d'autres bons sentiments pour accompagner votre jugement. Ensemble, prenons son témoignage comme un enseignement, notamment sur les conséquences délétères qu'il peut y avoir à faire passer le culturel bien avant le cultuel, sur la sagesse de nos préceptes religieux, mais également sur la nécessité de les connaître, de les embrasser au mieux. Mais surtout, sur tout ce qu'il y a à gagner à faire confiance à Allah, même lorsque le soleil ne se lève plus, même quand le bonheur semble perdu. Je remercie à nouveau Mariam pour sa confiance et vous souhaite, Inch'Allah, une excellente écoute. Salam alaikum Mariam.
Wa alaikum salam, Adina, comment vas-tu?
Ça va bien, merci. Et toi, comment tu vas?
Ça va, super.
J'aimerais commencer notre conversation en te disant à quel point je suis honorée de t'avoir aujourd'hui parce que tu vas nous raconter une histoire qui n'est pas toujours facile à raconter. Donc, je voulais te remercier de ton courage, des leçons que tu nous partageras et qui seront, à n'en pas douter, très utiles pour tout le monde.
C'est moi qui te remercie de m'avoir invitée. Enfin, j'ai hâte de commencer. Comme je t'avais expliqué tantôt, c'est vraiment pour fermer la page d'un livre et prendre la vie comme elle vient. Bon. Et puis être dans le passé.
C'est une bonne chose. Je dirais vraiment qu'on est honoré de clôturer ce livre avec toi. On va commencer, Mariam. Je vais te demander de te présenter en m'indiquant du coup ton prénom, ton âge et ta situation maritale actuelle, s'il te plaît.
Alors, je m'appelle Mariam, j'ai 44 ans et je suis mariée.
Alors, Mariam, pour bien comprendre ce qui t'est arrivé, on ne peut pas vraiment le dissocier de tout contexte familial, social. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu dans quel contexte tu as grandi et puis comment t'était présenté le mariage à l'époque?
Alors, je suis l'aînée d'une famille de 8 enfants. J'ai grandi dans une famille... on va dire monogame. Mes parents sont venus en France dans les années 70. Je fais partie, on va dire, de la deuxième génération.
Ils venaient de quel pays?
Ils venaient de la Mauritanie. Et jusque l'âge de 16 ans, on va dire, j'ai un peu vécu dans l'insouciance, sans savoir que, arrivé à un certain âge, j'allais me marier. Donc, j'ai grandi dans une famille très traditionnelle. Donc, on est de l'ethnie soninké. Donc le mariage, on va dire, c'est la base du socle de notre société, on va dire. Et c'est plus pour créer des alliances, préserver les liens familiaux. On regarde pas trop le bonheur des enfants. On va plutôt penser à la préservation de la famille. Donc j'ai été promise en mariage à l'âge de 3 ans.
Alors, ça fait beaucoup d'informations sur lesquelles j'aimerais qu'on revienne. Tu vois, tu as dit quelque chose d'intéressant. Tu disais quand tu as été élevée dans une famille très traditionnelle, tu as expliqué pourquoi, mais surtout tu as dit qu'en fait, quelque part, le bonheur personnel comptait moins que le bonheur global. C'est un peu ça?
Tout à fait. C'est l'intérêt collectif avant l'intérêt personnel.
Et ça, c'est très lié à ta culture.
C'est très lié à ma culture et c'est très lié au fait que voilà, nos parents sont arrivés dans les années 70, ils sont partis avec une certaine mentalité, sont venus en Europe, ils sont restés entre eux et voilà, ils ont pas évolué mentalement et je pense qu'on est un peu c'est un peu les conséquences de tout ça,
de ce voyage là. Je tiens quand même à préciser pour les personnes qui nous écoutent que c'est l'histoire de Mariam qui est d'origine soninké, mais ça se passe pas comme ça dans toutes les familles soninké. Il est vrai que dans les familles ouest-africaines, au sens large du terme, j'espère ne pas dire d'erreur, la famille a un poids qui est énorme. C'est-à-dire que vraiment, la famille, maintenir les liens, c'est extrêmement important. Maintenant, tout le monde ne vit pas les mêmes histoires, tout le monde... Ce poids-là n'a pas la même importance selon les familles. Certains soninkés vivent dans d'autres villes et ne sont pas forcément entourés de soninkés, mais on peut trouver certaines similitudes dans certaines familles ouest-africaines, mais attention à bien se rappeler que à chacun son contexte et chacun son histoire. Mariam, tu disais que toi, tu as été promise à l'âge de 3 ans.
À l'âge de 3 ans, par ma grand-mère.
Ça s'est passé comment ? Comment on est promis, en fait ?
Ça s'est fait tout simplement. J'étais petite à l'époque. Je regardais des photos et je suis tombée sur une photo de mon cousin. Et je ne sais pas comment c'est venu, mais en tout cas, j'ai dit à mes parents « Ah, bah, je vais me marier avec lui ». Mais en étant petite, c'est des paroles. Et ça allait jusqu'en Afrique. Ma grand-mère a entendu la plaisanterie et elle a gardé pour quelque chose de vraiment sérieux. Et elle est morte en 92. Et en fait, elle est restée avec cette idée en disant que oui, c'est un enfant. Les enfants, c'est comme des anges. Quand ils disent une parole, on ne peut pas contester. Donc, elle se mariera avec lui. Et c'est resté.
Hein. Et tu vois, enfin, on en revient à ce que tu disais précédemment, à savoir que beaucoup de décisions dans certaines cultures sont culturelles avant d'être culturelles. Parce que là, tu vois, de se dire les enfants, c'est comme des anges. Quand ils parlent, leur parole, ça a une importance, ça a quelque chose... Ça, pour le coup, ça n'a pas de rapport avec la religion, en fait. C'est vraiment que dans certaines cultures, c'est difficile, sur certains sujets en tout cas, sur certains aspects, de vraiment faire reculer le culturel pour vraiment mettre en avant le culturel, quoi.
C'est difficile de se défaire. Après, il y a une époque, je ne compare pas à ce qui se passe actuellement, mais à l'époque où moi, j'étais adolescente, les mariages arrangés, c'était le lot de toutes les jeunes filles. Je crois que même dans la même année, toutes mes cousines, on a été toutes fiancées ou mariées pratiquement toutes en même temps.
Donc en fait, c'était pas ton histoire à toi, était pas surprenante dans ton contexte à toi en tout cas.
Non, pas du tout.
Et est-ce que toi, du coup, tu grandis, parce que du coup, ta grand-mère, rahimallah, elle décède dans les années 90. Toi, tu grandis. Est-ce que toi, quand tu grandis, on te fait garder à l'esprit ce propos-là. On te rappelle à l'esprit que tu as eu ce propos-là et qu'il va falloir le concrétiser un jour ou l'autre.
En fait, c'est comme si on est matrixé. On grandit en sachant que ça arrivera tôt ou tard. On te parle de ton futur mari. Et moi, c'est comme si en fait, j'avais le cerveau anesthésié. Je n'ai pas pensé à me rebeller ou à dire quoi que ce soit. C'est que ça arrivera quand ça arrivera, mais en attendant, je vis. Et peut-être que j'avais l'espoir que ça ne se fasse pas. Mais en tout cas, j'essaie de vivre mon adolescence comme une jeune fille normale, mais en sachant que derrière, j'avais pas une pointe de dureté, mais j'avais dans ma inconsciemment, je savais que voilà, à 18 ans, c'était sûr que j'allais pas vivre la même vie que mes copines françaises ou maghrébines. Moi, c'était sûr que j'allais me marier.
Mais ça, c'était vraiment une épée de Damoclès. Et enfin, ça se manifeste comment ? C'est-à-dire que toi, tu le sais et on n'est pas capable de l'expliquer, mais juste tu sais que ça va arriver. Bon, est-ce que tu as des tantes, des parents qui viennent te voir en te disant « N'oublie pas, à 18 ans, tu te maries ».
Non,
ça se manifeste comment à l'époque ?
Ça se manifeste quand on nous voit, quand on va dans les réunions familiales, on dit « Ah, c'est la fiancée de un tel ». Donc, petit à petit, insidieusement, mais... Pour autant, moi, je sais pas que je me voyais condamnée, mais je savais que ça allait arriver et que de toute façon, je pourrais pas me battre pour dire non. C'est pas possible. Soit mes parents risquent de se séparer à cause de moi. Enfin, c'est assez compliqué.
C'est incroyable. Hein.
J'arrive pas à expliquer, même toutes ces années en arrière, me dire est-ce que à l'âge de 16 ans, j'aurais pu me dire non, je me marie pas, j'essaye de me battre. En fait, j'ai pas voulu me battre.
J'ai l'impression que, après, on n'est pas dans ton esprit, mais pour moi, tu dis que tu as du mal à expliquer, mais c'est assez clair que en fait, on te fait comprendre que tu n'as pas le choix. Et en plus, étant donné l'âge que tu as, tu te sens encore moins d'avoir le choix. Parce qu'en fait, quand tu es encore jeune, sous la tutelle de tes parents, tu vois pas cette issue, cette possibilité de dire non, encore moins dans nos cultures où le respect de l'aîné est très important. Dire non, c'est pas une option, en fait. Et j'ai l'impression que c'est ce que tu es en train d'expliquer, en fait.
Et on n'a pas eu d'exemple. Là, aujourd'hui, là, je parle de maintenant dans les années actuelles, des mariages forcés, mais il n'y en a plus. À notre époque, je n'avais pas d'exemple de cousine ou de proche qui s'était rebellée, qui avait dit non, qui était partie, ou une sur un million, mais j'en avais pas. Donc, pour moi, c'était ça va se passer comme ça, et puis pas autrement.
Oui, il n'y a pas d'autre option possible, quoi. Et est-ce que tu arrives du coup à créer du lien avec cette personne avant que la question du mariage n'arrive concrètement et fermement entre vous ?
Alors, pas de lien particulier. J'étais allée en Afrique à l'âge de 13 ans. Je l'ai vue, mais j'ai pas créé de lien. On m'a bien fait comprendre, oui, c'est ton fiancé, mais j'ai pas créé de lien. J'ai passé mes vacances tranquillement. D'accord. Sans créer de lien ou quoi ou qu'est-ce. Après, l'âge de 15 ans, on a commencé à me dire, oui, il faut commencer à envoyer des lettres, faut envoyer des photos, vraiment pour te conditionner, te préparer.
Bah oui, en fait, tu vois, t'as commencé en disant qu'on était un peu matrixé, mais c'est un peu ça, en fait. C'est-à-dire que dès le départ, en fait, encore une fois, comment tu veux dire non si dès le départ, on te parle de lui régulièrement, tu as des mariages, on te dit c'est la fiancée d'Andelle, on le voit, on te dit ce sera lui. C'est difficile de se défaire de cette pensée qui devient une conviction. Mais du coup, c'était pas un peu étrange de le voir là, en disant je vais me marier avec lui, mais en fait, je le connais pas ou j'ai pas de sentiment pour lui. Est-ce qu'à l'époque, tu pouvais matérialiser ça ou tu là, en fait, parce que c'est une chose de pas avoir le choix au niveau entre guillemets factuel, de dire de toute façon j'ai pas le choix, ce sera lui. Mais est-ce que du coup, au niveau de tes sentiments, t'as essayé de dire bon faut peut-être que je fasse que j'apprenne à l'aimer, ou vraiment tu te disais mais je peux pas faire semblant dans ma tête? Par contre,
à mon âge, l'âge que j'avais, je pensais pas à l'amour, je pensais pas aux sentiments, je pensais qu'à sortir avec mes amis, m'amuser. J'étais vraiment une enfant. La notion de sentiments, de mariage, d'amour, c'est complètement anesthésiée ou voire inexistante. J'ai pas l'impression d'avoir eu même ces pensées-là. C'est drôle parce qu'en parlant maintenant que je me rends compte que non, à cet âge-là, non, j'y pensais même pas. Même ne serait-ce qu'imaginer une vie de couple, le mari, la femme, avoir des enfants, non, j'imaginais pas du tout.
Et alors, à quel moment s'annonce officiellement que tu vas te marier à telle date avec cette personne ? Est-ce que ça s'est fait comme ça d'ailleurs ou pas ?
Alors, à l'âge de 16 ans, je me souviens de rentrer, je rentrais de la piscine fatiguée. Et j'ai trouvé toutes mes tantes, les copines de ma mère, dans le salon, en train de faire le partage, distribuer des colas. Et quand je suis rentrée, on m'a dit « Ah, ça y est, t'es officiellement, ça a été fiancé. »
Ah ouais.
Ouais. Donc ça s'est passé comme ça. Je suis rentrée, j'étais exténuée. Et en fait, c'est même pas que je rigolais, c'est comme si en fait on m'avait mis une seringue. Et en fait, j'étais debout sans être debout. J'étais là, mais sans être présente. Mais en fait, c'est comme si ça m'était passé au-dessus de la tête. Je me souviens être passée devant les gens, je les regardais, je leur ai dit bonjour, et après, je suis partie dans ma chambre, mais sans plus.
Et ça m'avait fait. Ça t'a pas choqué, ou tu t'es pas dit ça y est, je suis mariée? En fait, c'est
ni chaud ni froid. Ni chaud ni froid. Ni chaud ni froid.
Ok. Non, mais franchement, c'est hyper fort ce que tu expliques là, parce qu'en fait, je pense qu'on se rend pas compte du tout de ce qu'on peut ressentir quand on a 16 ans et qu'il nous arrive ça. Parce que tu vois, là, aujourd'hui, on parle d'amour, on parle de mariage, on est dans notre trentaine, dans notre quarantaine. Mais en fait, il faut à chaque fois se replacer dans le contexte d'une enfant de 16 ans dans les années 90, tu vois. Oui, et en fait, j'ai quand même le sentiment que vous êtes une génération où les sentiments n'étaient pas très... Même vous, en fait, vous n'aviez pas trop le temps de regarder ce qui se passait à l'intérieur de vous-même. Je me trompe ?
C'est comme je te disais, c'est élevé en étant pas individualiste, mais collectif. Donc, tu ne penses pas à ton bien-être personnel. Tu vas toujours penser au groupe. Et cette notion d'amour, de penser à son bien-être, mais elle était inexistante, quasiment inexistante.
Okay. Et alors, du moment où tu es officiellement mariée, est-ce que tu as plus de liens qui se créent avec maintenant ton fiancé? Est-ce que vous parlez préparatif de mariage ou tout ça se fait sans vous?
Tout ça se fait sans nous. Je recevais des lettres, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas WhatsApp, donc je recevais des lettres par la poste, des photos, mais sans plus, en fait, j'étais complètement éloignée de ça. Et moi, on m'envoyait des lettres, je répondais. Des fois, je recevais des appels, à l'époque, ça se faisait sur le fixe. C'était oui. Allô, bonjour, puis basta, quoi. Je restais silencieuse au téléphone. C'était vraiment... Et je crois qu'il y a eu un gros coup de pression vers les 17 ans. On m'a dit, ah non, maintenant, il faut que tu appelles, il faut que tu prennes des nouvelles. Mais j'appelais, ou soit j'allais avec ma cousine, deux de mes cousines. On a appelé toutes les deux. En fait, c'est elle qui parlait, moi, je parlais pas. J'avais pas envie de parler, pas parce que je détestais la personne ou quoi. Ok, c'est que, en fait, j'avais rien à dire. Et surtout, je voyais pas l'utilité. Je voyais vraiment pas l'utilité.
C'est impressionnant. Est-ce que tu peux nous parler de... Parce que j'imagine que vous... Enfin, c'est pas j'imagine. Le moment où vous êtes mariés, ça s'est passé où vous étiez? Ça s'est passé au pays? Tu as dû aller le voir à un moment donné? Comment ça s'est décidé?
Alors, en mai 95, il y avait eu un événement dans ma famille. Ma sœur et moi, on s'est rebellés. Parce que ma sœur, elle, contrairement à moi, elle n'avait pas voulu se marier avec la personne à qui elle était promise. Donc pendant presque 2 ans, ça a été une guerre avec mes parents, plutôt avec mon père. Et mon père, en fait, rejetait tout sur ma mère. Mais ma sœur a lutté, elle s'est battue et finalement, elle a eu de la chance. Elle a pu y échapper. Mais avant ça, mon père nous a convoqués toutes les deux. Il a fait de toute façon, vos jours sont comptés. Toi, tu iras te marier au mois d'août. Au mois d'août, c'est bon, tu vas te marier. En parlant de moi, j'ai vraiment eu un coup de massue sur la tête et je me suis dit là maintenant c'est bon, t'as fait la fête pendant des années, maintenant c'est bon là tu vas rentrer dans la vraie vie. Ma mère a tout organisé, le voyage, les préparatifs du mariage et je suis quand même allée avec eux pour acheter mes vêtements et autres. Mais la seule fois où j'ai vraiment je me suis vraiment rebellée, c'est quand ils ont voulu faire une fête en France, puisque j'allais me marier en Afrique. Et j'avais caché à toutes mes copines que j'étais fiancée et que j'allais me marier.
Pourquoi tu l'as caché?
Parce que j'avais honte.
Honte de quoi?
Je sais pas. Honte de pas être comme elle. Enfin, après nos études, enfin, moi je passais mon BEP. Après le BEP, elle avait toutes trouvé des options. Moi je me suis auto-sabotée en me disant, de toute façon. Je vais me marier, j'ai plus d'avenir, donc ça sert à rien que je reste à l'école. Donc j'ai quand même eu mon BEP. Et dans la cité, tout le monde était au courant que ma mère, elle organisait une fête pour mon mariage. Et moi, j'insistais bien en disant, c'est pas un mariage, c'est des fiançailles. Parce que pour moi, c'était honteux de se marier à 19 ans. C'était trop jeune. Et j'ai vraiment tout caché. Mes amis avec qui j'étais au lycée, elles n'étaient pas au courant. Wow. Je leur ai dit que 24 ans après, pendant que vous étiez en train de fêter votre BEP, je dis pour moi je passais à l'abattoir. Et la fête s'est organisée en France avec toute la famille, les cousins, les voisins et autres. Et j'étais même prête. J'avais dit à ma mère que j'allais pas à la salle. Ils se débrouillaient, ils avaient qu'à faire leur fête sans moi, mais j'irais pas parce que j'avais pas envie en fait. J'avais pas envie.
T'avais pas envie de te marier avec cette personne-là et t'avais pas envie de te marier si jeune, c'est ça?
J'avais pas envie de me marier aussi jeune et j'avais pas envie de me marier tout court. Pas envie de me marier tout court, mais je me dis, si je me rebelle, les parents, ils vont me rogner, ils vont me maudire, ça va retomber sur ma mère, je vais lui foutre la honte, c'était compliqué.
Oui. Et du coup, j'aimerais juste, avant qu'on aille sur la suite de ton histoire, tu as expliqué que ta sœur, elle a dit non. Est-ce que toi, ça t'a pas donné envie de dire « Ah bah, si elle y va pas, moi, j'y vais pas non plus » Ou toi, t'as senti que t'avais plus de responsabilité peut-être sur tes épaules du fait que tu sois l'aînée?
Moi, c'était plus parce que j'étais la plus grande. Donc, ouais. Je me suis laissée...
Toi, tu t'es pas donné le choix, en fait. Tu t'es dit que toi, en tant qu'aînée, t'avais pas ce luxe de dire non, c'est ça?
Ouais, c'est exactement ça.
Ok.
C'est, ouais. Je devais pas dire non et pas comme on dit, ne pas faire foutre la honte.
Pas faire honte à ta maman.
À ma mère. Ouais.
D'accord, parce que c'est ce que tu pensais à l'époque. Mmh. Ok, je comprends. Et donc, la salle se fait en France. Vous partez à l'étranger en Afrique pour que tu puisses te marier et rencontrer ton époux, c'est ça?
Oui, exactement. Donc, on est parti en août 95 pour un mois. Je suis partie avec ma mère et une de mes tantes. On est d'abord parti, ça s'est passé au Gabon, donc on était déjà sur place. On est arrivé à Libreville et le mariage, en fait, devait se faire à Franceville. Et en fait, on est parti en train, on a voyagé de nuit, on a voyagé 14 heures en train. Et en fait, ces 14 heures, je me suis dit, bah là, en fait, t'es entre ta vie d'avant et la vie que tu vas avoir, parce que clairement, voilà, tu seras... Je peux même pas expliquer. J'étais angoissée, stressée, mais en même temps, ben, j'allais, je me suis laissée porter. Et on est arrivé le matin, fatiguée, et bah en fait, je l'ai vue à la sortie du train et il n'y a rien eu en fait.
Le mariage se déroule. Est-ce que par la suite, tu prends le temps quand même de discuter avec lui avant de rentrer en France ou pas du tout?
Alors, le mariage se déroule, ben, moi je pars. Après, je me suis dit, bah écoute, c'est ton mari, bah tu vas apprendre à l'aimer.
D'accord.
Donc, la période du mariage s'est bien passée, on va dire. On n'a pas eu d'accroche ou quoi que ce soit.
Ok. Est-ce qu'à l'époque, tu pouvais te confier du coup, enfin, j'ai cru comprendre que tu n'en avais pas trop parlé avec tes amis, mais est-ce que tu avais au moins, je ne sais pas moi, ta sœur, avec qui tu pouvais un peu exposer ce que tu ressentais? Parce qu'en fait, là, j'ai l'impression que tu étais quand même assez seule dans la gestion de tes émotions, dans la gestion même de ton mariage. J'ai l'impression qu'en fait, tout se passe autour de toi et que toi, tu es très seule en fait.
Ouais, très seule. J'avais juste une cousine à qui je me confiais énormément, qui s'est mariée un an avant moi. Et justement, elle qui a tout suivi du début à la fin et qui s'entendait très bien avec lui puisqu'il s'appelait, il discutait, elle lui expliquait en fait comment j'étais au niveau de mon caractère. En fait... C'est comme si elle avait voulu préparer la relation, mais de façon vraiment innocente, vraiment pour que je sois heureuse. Et c'est la personne qui a été le plus touchée de toutes mes galères, en fait.
D'accord. Donc, elle a toujours été là, en fait.
Toujours. Toujours été là.
D'accord. Mais t'as pas pu... Enfin, de toute façon, à l'époque, de ce que je comprends, t'as pas pu lui formaliser ce... C'est pas que t'as pas pu, c'est que ça ne se semblait pas possible de formaliser le « je veux pas »,« je ne l'aime pas ». J'aimerais ne pas avoir à me marier.
Non, c'était impossible parce que psychologiquement, je pense que je m'étais conditionnée au fait que de toute façon, tu vas te marier avec lui, il va falloir que tu apprennes à l'aimer, que tu construises quelque chose, mais sur une base vierge, on va dire, parce que enfin, le mariage, on t'en parle pas. On te dit juste que tu vas te marier, mais on te explique pas les fondements du mariage, la base du mariage, on t'explique rien, la vie de couple. T'es une personne qui est une enfant, tu es dans l'attente. Donc pour toi, le mariage, enfin être marié, c'est recevoir quelque chose de ton mari. Et comme une relation, en fait, c'est comme si t'étais avec ton père, en fait. C'est, je suis une petite fille et puis je suis là, je fais rien, j'attends que ça se passe.
Ouais. Parce que justement, ça va être une de mes prochaines questions. Est-ce que, tu vas probablement d'y répondre là, mais on t'a jamais posé en disant Mariam, tes droits en tant qu'épouse du point de vue de l'islam, c'est ça. Donc tes droits, c'est ça. Tes devoirs, c'est ça. Les droits de l'époux, c'est ça. Les devoirs de l'époux, c'est ça. Voilà ce qui se passe quand on est marié. Personne ne t'a jamais rien expliqué là-dessus.
Personne. La seule chose qu'on te dit, voilà, t'es une femme, tu vas te marier, il faut être propre, il faut savoir cuisiner, il faut savoir faire le ménage, c'est tout.
Voilà. Ça nous laisse méditer chacun et chacune sur l'importance de se renseigner. Encore une fois, l'histoire de Mariam, elle est particulière, dans un contexte particulier, dans une époque particulière. Mais nous, alhamdoulilah, c'est d'autres challenges, hein, mais on a quand même d'autres facilités. Et on a notamment le savoir qui est à portée de main. Et ça laisse vraiment, je trouve, méditer sur le fait que c'est hyper important de se renseigner sur toute cette partie-là, religieuse, sur les fondements religieux de qu'est-ce qu'un mariage. Qu'est-ce qu'un mariage? Je veux dire, la base du mariage en islam, faut que l'épouse soit consentante, faut qu'elle ait dit oui. Alors ça, c'est la base. Et la base, elle n'y est pas, en fait. Donc, c'est quand même très, très compliqué derrière d'avoir un mariage épanouissant, heureux. On te remercie parce que vraiment ton témoignage, il met vraiment en lumière les fondements de notre religion et l'importance de rester fermement accroché à ces fondements, même quand nos familles les nient un peu parfois, en fait. Parce que là, c'est vraiment ça, on a nié un fondement qui est clair, en fait, qui est limpide.
Donc, même si tu veux, si tu regardes même au niveau religieux, j'avais quand même des manquements parce que toute cette base, déjà que le mariage, c'est la moitié de la foi, tout ça, bah, c'était inconnu. Inconnu complet.
D'accord. Bon, tu rentres en France. Est-ce que là, c'est pareil, on te dit, tu vas faire, Mariam, tu vas faire venir ton mari, ou est-ce que c'est toi qui te dis, bah, du coup, comme je me suis mariée, comment ça se passe la suite?
Bah, déjà, comme tu as expliqué, j'ai pas fait d'inscription pour l'année suivante. Donc, en fait, je suis arrivée le 21 septembre à Paris, 95. Le 22 septembre, c'était un dimanche. Le 23 septembre, je commençais à travailler. J'ai une de mes tantes, en fait, comme elle savait que je m'étais mariée, elle fait « Bon, il faut que tu trouves un travail. Je t'ai trouvé un travail. Comme ça, tu vas pouvoir faire venir ton mari. » Ça s'est fait comme ça. C'est femme de chambre. À 19 ans, femme de chambre, alors...
Donc, à 19 ans, t'arrêtes l'école, t'as ton bébé. Voilà. L'école,
et je deviens
mariée et tu deviens femme de chambre.
Et je deviens femme de chambre. Et l'objectif, c'était de travailler, avoir les fiches de paye, trouver un appartement pour le faire venir, puisque c'était dans la logique.
Donc, c'est fou parce que franchement, on discute là depuis quelques minutes et en fait, je n'entends que des « il faut ». Maintenant, tu as fait ça, il faut que tu fasses ça. Enfin, je trouve ça, je trouve ça tellement dur de dire que... T'es en pilote automatique, en fait, et en fait, tu ne peux faire que ce qu'on te dit de faire, en fait.
C'est ça. Entre-temps, j'avais trouvé un appartement.
D'accord.
J'avais trouvé un appartement en studio juste à côté de chez mes parents. Donc, c'était assez facilitant pour qu'ils puissent venir, mais il y a eu la guerre au Congo, et ce qui fait qu'au niveau administratif, c'est compliqué de le faire venir.
D'accord.
Donc, on s'est marié en 97, et il est arrivé en France qu'en 2001.
En 2001,
okay, ah oui, voilà.
En 2001.
En 2001 en France.
D'accord. Et quand il arrive en France, ça fait 4 ans que vous êtes mariés. Tes sentiments restent un peu toujours les mêmes, c'est ça? De ce que je comprends?
Voilà, c'est vraiment que de l'affection, pas plus.
D'accord.
Voilà.
Et donc, quand il arrive, quand est-ce que viennent les premiers changements de comportement? Est-ce que toi, tu les vois venir assez rapidement?
Alors, il est arrivé en France le 1er décembre 2001. J'oublierai jamais, le 20 décembre 2001, c'est là que l'enfer a commencé. En fait, je déteste l'élection de Miss France parce qu'en fait, ça a commencé ce jour-là.
Ah, d'accord. Donc, depuis,
je déteste.
D'accord.
Donc, en fait, j'ai reçu des cousines qui sont venues à la maison pour lui dire bonjour, comme il venait d'arriver. Et dès qu'elles sont parties, ça a été l'enfer. Je sais pas si c'était un lien ou j'étais quelqu'un qui était assez complexé physiquement et c'est vrai que mes cousines physiquement elles étaient beaucoup plus présentables et autres. Et je sais pas si
de dire présentable, c'est peut-être juste c'est pas.
Bah si, après bon, c'est mon avis et de là en fait il n'a pas cessé de me comparer aux autres.
D'accord.
Et me dénigrer, me descendre. Me faire des réflexions, au bout de 2 semaines, en fait, la personne a complètement changé.
Tu dis, enfin, vraiment changé, c'est-à-dire que impossible de voir venir à la chose, quoi. Il est passé d'un extrême à l'autre.
D'un extrême à l'autre. J'ai rien compris.
Et du coup, le soir de cette élection, il commence par la violence psychologique, alors,
en te disant. Oui, la violence psychologique, en fait, il ne m'a pas parlé pendant 3 jours.
Wow.
Sans savoir pourquoi, il ne m'a pas parlé pendant 3 jours. Et j'ai demandé ce qu'il y avait et c'était vraiment des réactions violentes. Il ne voulait pas me parler. Donc ça a commencé comme ça.
D'accord.
Ouais.
Et pareil, est-ce que ça, tu t'en parles autour de toi de ces propos-là, du fait qu'il te dénigre, de ce changement de comportement dans un premier temps? Est-ce que tu peux en parler ou pas du tout?
Non, j'en parlais pas. J'en parlais pas. J'ai gardé pour moi jusqu'au moment où il a commencé. Je commençais à vraiment trouver lourd le fait de tout assumer à la maison.
Est-ce qu'il travaillait pas du coup?
Alors au début il travaillait, il avait commencé à trouver du travail, il trouvait du boulot, il arrêtait, il commençait un mois, il arrêtait. Et à un moment donné, j'ai dit stop, je vais aller voir mes parents, je vais leur dire quoi, moi je peux pas tout prendre en charge, sachant que j'avais je m'étais occupée de moi toute seule pendant presque 3 ans. Il est venu en France. Quand il est venu, ben, il avait tout, quoi. J'avais acheté des vêtements. J'avais vraiment tout fait pour qu'il soit à l'aise. Et il fumait et j'ai acheté même ses cigarettes. Et ce que j'attendais, c'est qu'au moins il participe. qu'il participe au foyer, c'est le syndrome de Stockholm. Qui participe aux dépenses du foyer. Et voilà, j'en ai parlé à mes parents. Et mes parents ont dit, bon, si c'est ça, ben, on va appeler une de vos tantes et ils vont lui faire une convocation. Donc, ma mère décide d'en parler à une de mes tantes. Parce que lui aussi, il avait une pression familiale. C'était l'aîné de la famille. Il est venu en France. Normalement, il doit travailler. Il doit subvenir aux besoins de sa famille au pays et ici. Il a de la chance. Il a pu venir. T'es arrivé ici. T'as eu tes papiers. Tu veux pas travailler. T'es un feignant. Et comme il avait une réputation de feignant depuis le bled, donc ça l'a suivi.
Ah, et du coup, ça les a pas surpris, en fait.
Ça les a pas surpris. On a été convoqués au niveau de la famille, des tantes. Tout le monde me donnait raison. Et mon tort, on va dire, j'ai jamais eu d'assises africaines. Ils nous ont interrogés séparément. Donc moi, dans un premier temps, tous mes oncles m'ont interrogé. Ils ont dit, oui, voilà, quel est le problème? Je dis, bah voilà, il veut pas travailler. Quand il travaille, il dépense rien pour la maison. Moi, je suis toute seule, je dois tout prendre en charge et tout. Et lui, on l'a interrogé. Et en gros, il m'a tout retourné de... Enfin,
il t'a mis sur le dos.
Tout mis sur le dos.
Et alors, est-ce que durant cette assise, t'en profites pour parler des violences psychologiques qu'il a à ton égard ou pas?
Non,
du tout.
Non, du tout.
Je vais tu veux pas en parler parce que t'estimes que c'est pas le bon endroit ou...
Non, j'en parle pas parce qu'on nous a tellement appris à supporter. Quand t'es jeune, on te dit, voilà, même s'il se passe n'importe quoi à la maison, tu supportes, tu dis rien. Tu dis rien et en fait, moi, je suis restée ça. Pour moi, c'était pas important. Et les violences, elles se sont intensifiées après cette réunion.
Ah.
Elles se sont intensifiées après cette réunion-là.
D'accord.
Ça a été...
Il te l'a fait payer, en
fait. Ah ouais, il me l'a fait payer et bien. Et en fait, quand on nous a interrogés séparément, il a dit que je fumais, que je buvais, que j'allais en boîte. Wow. Donc, si tu veux, à l'époque, les enfants de France, on n'avait pas une très bonne réputation. Donc, ouais. Il s'est servi de ça pour m'enfoncer. Ouais. Donc, il m'a sali auprès de ma famille pendant des années. En fait, j'ai même une de mes grand-mères qui est décédée en France. Et elle a été restée sur l'image qu'il avait créée de moi. Après cette réunion, mes parents se sont retournés contre moi. Et il a pu faire tout ce qu'il voulait. Il a pu faire tout ce qu'il voulait. Il m'a fait, de toute façon, tes parents ne te croiront jamais. Maintenant, c'est moi qui ai eu raison devant tout le monde. Donc, voilà.
Mais tu vois, c'est fou ce que tu dis là. Parce qu'en fait, très souvent... Les personnes qui n'ont pas vécu des violences psychologiques ou physiques, elles comprennent pas, en fait, les femmes qui restent. Souvent, hein, pourquoi elles partent pas, mais elle aime trop les dramas. Mais en fait, là, tu es en train de décrire quelque chose de fou. En fait, là, en fait, tu es vraiment en train de décrire comment une violence psychologique et physique peut s'installer. Le premier pas, c'était toi déjà de te conditionner sur le fait que tu n'es pas le choix. Lui, il arrive, il montre il montre un visage devant les autres et devant toi, ça n'a rien à voir. Et tout ça, en fait, ça rend la violence psychologique et physique plus permissible parce qu'en fait, on voit rien arriver, en fait.
Il a berné tout le monde. Il a berné tout le monde. Et le fait que... on va dire que le fait que je sois née ici, bah, ça me donnait une condition de demi-personne. Lui, il est né en Afrique, il a été enlevé en Afrique, il connaît
auprès
les traditions. Bah, auprès de ma famille.
D'accord.
Auprès de ma famille, oui, lui, voilà, il est dans les traditions, il est né en Afrique, sa parole vaut plus que la tienne, en fait.
D'accord.
En gros, c'était ça.
D'accord.
Et j'ai très mal vécu cette période parce qu'en fait, tout le monde m'a tourné le dos et la seule personne qui a été avec moi, c'était ma cousine.
Oui.
Et il y a eu un moment, à chaque fois que je rentrais du travail, en fait, dès que j'arrivais devant mon immeuble, en fait, je me mettais à pleurer parce que je savais qu'en rentrant à la maison, j'allais me prendre des remarques, me faire battre ou me faire maltraiter. Et je crois qu'un jour, j'ai décidé de partir. J'avais pris, mais en fait, c'était vraiment... Quand je vois même avec quoi je suis partie avec un sac à dos. Il y avait ma tenue de travail. J'avais rien d'autre. J'ai dit, moi, même si je m'enfuis, bah, je vais travailler quand même. Et au moment où je partais, ma cousine m'appelle sur mon portable. Et elle m'entend en train de pleurer. Et je lui explique que voilà, bah, heureusement que tu m'as appelé. Moi, tu me reverras plus, je pars. Je m'enfuis. Et j'ai ma cousine qui pleure au téléphone, qui m'a dit de venir chez elle. Et je suis allée chez elle. Et elle a appelé ma mère en pleurant pour me défendre, pour dire que voilà, tout ce que je disais c'était vrai, que je supportais beaucoup de choses et que je disais rien, et que j'allais partir. Et de là, ma mère, elle a paniqué. Je suis allée chez mes parents, je leur ai dit que voilà, tout ce qui se passait, bah, tout ce qui passait, qu'il me frappait, qu'il me maltraitait, que tout ce qu'il a dit c'était faux. À ce moment-là, mes parents ont compris que voilà, je disais la vérité. De là, ben, ma mère, elle me disait tout le temps de patienter, sois patiente, tu peux pas divorcer pour un motif, pour un faux motif, faut vraiment que t'aies une raison valable. Pour eux, il faut que j'ai un motif valable pour divorcer, pour que ce soit présenté auprès de la famille. Il y a un moment donné, je crois que c'est en 2002, je suis partie aux États-Unis et de là, en fait, j'ai dit stop. Je vais vivre pour moi, je vais plus vivre pour les autres. Donc, j'ai pris mon billet et je lui ai même pas dit. Je lui ai pas dit. En fait, d'accord, c'est seulement le soir, après avoir pris mon billet, je lui ai dit oui, je pars aux États-Unis pendant les vacances. Il s'est mis devant moi et il m'a craché dessus. Il m'a craché dessus.
J'allais dire, mais pourquoi, en fait, je sais pas, j'arrive pas.
Vraiment,
à comprendre. En recherche de la cohérence, là, il y en a pas, en fait.
J'arrive pas à comprendre pourquoi cette haine, cette rage contre moi, j'ai jamais compris.
Il te l'a jamais dit.
Il me l'a jamais dit.
Tu vois, avant que tu nous parles de cet épisode-là, comment, en fait, lui, à un moment donné, il s'excuse, il t'explique pourquoi il réagit comme ça ou
non,
jamais.
Il avait une rage contre moi, que j'y avais gâché la vie, qu'il n'était pas heureux avec moi, qu'il avait. Qu'il aimait une femme au Congo, qui savait avec elle qu'il aurait dû se marier, que lui, on l'a forcé, et en fait, c'est ça. Donc, c'est venu de fil en aiguille. Et moi, je m'accrochais. Pourquoi je m'accrochais? Parce que je voulais pas avoir honte devant les gens. Tout le monde avait mis tant d'espoir dans ce mariage. Et en fait, je supportais, mais sans voir le bout du tunnel, sans savoir si derrière il y avait une finalité, si j'allais vieillir avec lui. Mais j'ai dit, bah c'est pas grave, je suis dans ce mariage, je reste dedans. Pour moi, je voyais pas d'issue, ce qui m'avait tellement descendu que j'étais une, excuse-moi, je vais être vulgaire, j'étais une merde, que je me voyais pas avec une autre personne que lui. Je pars aux États-Unis, je reviens. Quand je suis revenue des États-Unis, il était super gentil. Et après, bah c'est reparti. Et quand c'est reparti, moi, en fait, moi j'ai changé, j'ai commencé à me prendre en main, j'ai fait un régime, j'ai commencé à sortir voir mes amis, et à partir de là, en fait, j'ai vécu une vie en étant mariée, mais en vivant pour moi. Ça veut dire que j'avais mon mariage à la maison, mais je m'en occupais plus, quoi. J'ai commencé à sortir, à retourner dans les mariages, à vivre une vie, lire, sortir avec mes amis, voilà, me foutre de ce qui pouvait se passer mal à la maison, mais au moins, voilà, je sais que dehors, à l'extérieur, je suis aimée par mes amis, par mes proches, et c'est pas grave, tant pis.
Est-ce que ça a eu une incidence sur ton mariage, tout ça, ce changement de,
non.
De comportement?
Non, non,
et
non.
De vie?
Non, non, pas du tout.
Ça l'a pas plus énervé ou ça l'a pas plus rapproché de
pas
toi
du tout.
Ou...
Pas du tout.
Les violences continuaient?
Alors, les violences continuaient, mais ça n'avait plus de prise sur moi, et j'avais décidé dans ma tête, j'ai dit de toute façon, je resterai pas avec. Et il y avait eu la pression aussi, bah, du fait qu'on était mariés depuis tout ce temps-là et qu'il n'y avait pas d'enfant. Mmh. Et du coup, voilà, il fallait faire des examens. Toujours, on me prend par la main. C'est même pas moi qui décide. Oui, il faut faire des examens. Vous allez faire des examens. Mmh. Et ce qui m'a sauvée d'un côté, c'est qu'il refusait de faire les examens, de faire des spermogrammes. Et moi, je m'étais servi de ça pour trouver un motif pour divorcer. Voilà, je m'étais servi de ça. Et voilà, je le dis sans honte, hein. C'était un moyen comme un autre. Et,
ouais, c'était une porte de sortie. Hein,
bah, c'était vraiment une porte de sortie. C'était une porte de sortie parce que c'est aller loin, c'est aller jusqu'à sa famille et mes oncles. Et du coup, arrivé à ce stade, on en a parlé à un de mes oncles. Et un de mes oncles, enfin, il a été convoqué, il n'a pas voulu venir. Et un jour, en fait, je rentrais du travail, j'ai trouvé un pagne chez moi. Et j'ai appelé ma sœur, je dis, vous êtes venue à la maison, vous avez oublié quelque chose? Elle me dit, non, on n'a rien oublié. Et en fait, ce pagne,
c'est... Un pagne, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, parce que nous, en tant que d'Afrique subsaharienne, on sait, mais un pagne, c'est quoi? C'est un bas, en fait. Hein, c'est comme une jupe, ou c'est un vêtement féminin. En gros, c'est le bas d'un vêtement féminin.
Pardon. Voilà, bah, en rentrant, je rentre du travail, je trouve le pagne, et là, en fait, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai pété un plomb, j'ai dit je pouvais tout supporter, mais ma maison, en fait, il faut qu'elle soit respectée. Donc je sais pas s'il avait ramené quelqu'un chez moi ou quoi, ou qu'est-ce. En tout cas, ce pagne a été déclencheur de tout, parce qu'à partir de là, j'ai dit stop, j'arrête. J'ai appelé mes parents, j'ai dit écoutez, j'ai supporté beaucoup de choses. J'ai dit à ma mère, tu pars en Afrique, quand tu reviens, tu retrouveras un cadavre ou tu trouveras personne. Parce que il est hors de question que je vive encore cet enfer, j'en peux plus. J'ai dit je peux tout supporter, mais qu'on ramène n'importe qui chez moi ou qu'on fasse du n'importe quoi chez moi, c'est trop.
Et à ça faisait combien de temps que tu étais mariée avec cette personne à ce moment-là?
Là, on était en 2004.
J'arrive ça faisait 7 ans de mariage, il était là depuis 3 ans.
Voilà, exactement. Donc à partir de là, j'ai jamais été aussi violente de ma vie. Je pense que ce jour-là, j'ai tellement pété un pont qu'il a eu peur. D'accord. Et je lui ai dit que là, ça allait aller très très loin, que j'allais convoquer toute la famille. Il a paniqué. Et là, on ne pouvait plus m'arrêter. J'ai appelé ma mère, j'ai appelé mon père. Mm-hmm. Et mes parents l'ont appelé. Et de là, en fait, mon divorce s'est fait en une semaine. C'était un vendredi, le samedi mon père est parti voir les anciens du village de ma mère, puisque moi j'étais mariée dans le village de ma mère. Mmh. Et mon père était quelqu'un de très respecté. Mon père a dit qu'il était resté très silencieux pendant toutes ces années, qu'il avait jamais rien dit, mais que maintenant il récupérait sa fille. Et ça s'est fait comme ça. Et mais j'étais tellement soulagée ce jour-là. Mmh. Et en fait le dimanche on avait fêté le baptême de mon neveu. Et ce jour-là, il est venu au baptême, mais comme si de rien n'était, comme si on était un couple, alors que pour moi, c'était fini. Et pour lui, c'était mes parents qui me gonflaient la tête, que moi je l'aimais, qu'il fallait que je reste avec lui. Et en gros, je dis non, c'est fini. 21 juin, le lundi soir, j'appelle mon oncle pour dire que voilà, vous l'avez convoqué, il n'est pas venu. Maintenant, il est encore dans l'appartement, je fais quoi? Et mon oncle, en fait, a pris son téléphone, il a appelé mon ex-mari. On était dans la même pièce, on lui a dit, tu prends tes affaires et tu sors. Et mon oncle, c'était une autorité, même à distance, t'es obligé d'écouter, il a pris ses affaires. En 7 ans de mariage, il avait cumulé une serviette et 2 couteaux de cuisine. Tout ce qu'il y avait dans la maison, c'était moi. J'avais tout payé. Et mon père comprenait pas à l'époque pourquoi j'ai acheté tout. Je dis, parce que je sais que je vais pas finir avec et je veux ne rien lui devoir. Donc il est parti à 22h et j'ai fermé la porte. Le lendemain, il a essayé de revenir. Il a appelé ma sœur pour dire qu'il devait revenir, qu'il comprenait pas pourquoi je l'ai mis dehors et tout, mais c'est un truc de fou. Et sa famille, en fait, m'harcelait au téléphone. Et tout ça, ça s'est fait sans que ses parents soient au courant. Ils l'ont su que quand il est parti.
Et quand il est parti, comment tu t'es sentie, toi, au moment où, à 22h, il a pris ses affaires?
Alors, c'est comme si tu m'avais retiré un sac de 100 kilos de riz, en fait. C'est comme si j'avais un poids énorme sur mes épaules qui était tombé. J'ai tellement pleuré.
De soulagement.
C'est pour ça que là, on me voit. Les gens qui me connaissent maintenant me disent que je suis forte de caractère, mais avant, j'étais tellement faible. Et je pense que c'est cette faiblesse aujourd'hui. Je ne veux pas revivre. Et du coup, c'est ce qui a forgé mon caractère.
Bon, tu dis que tu es faible, mais on n'est pas là pour se déresponsabiliser. Mais en tout cas, quand même, quoi. Vivre tout ce que tu as vécu à même pas à 25 ans, c'est beaucoup quand même. C'est pas quelque chose de faible. Enfin, moi, en tout cas, c'est pas comme ça que je le lis, quoi. Si on revient un peu sur ton mariage, est-ce qu'il y avait de la religiosité dans votre mariage ou pas du tout? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus?
Alors, au niveau de la foi, quand j'étais chez mes parents, j'étais quelqu'un qui était très pratiquante. Malheureusement pour moi, je suis tombée sur une personne qui ne priait pas. Pourtant, et qui avait grandi dans une école coranique, et qui arrivait ici ou même avant ne priait plus. Et ça a eu une incidence sur moi. J'étais pas régulière dans mes prières. Je pense que ça déteint forcément dans une vie de couple. Si le chef de famille, on va dire, n'est pas pratiquant, ça déteint aussi sur sa femme. Et moi, j'avais eu une baisse de foi. Par rapport à tous les événements qui m'arrivaient.
Pourquoi?
Et c'est seulement, je croyais plus en rien. J'étais vraiment affaiblie. J'étais faible. J'étais vraiment affaiblie à tous les niveaux. J'étais tout le temps malade, tout le temps alitée et j'avais plus de force. Et c'est seulement un an avant notre divorce que j'ai eu un regain de foi et j'ai commencé à être régulière, plus régulière dans mes prières. Et j'ai intensifié tout ce qui était invocation. Et moi, dans mes invocations, je demandais à ce qu'il change. Je demandais à Dieu de le changer. Au final, Dieu il a prévu un autre plan pour moi. Il m'en a carrément débarrassé. Je pense que à ce moment-là, j'ai eu un regain de foi énorme. Et Je sais pas, je pense que c'est ça, enfin je dis pas je pense, c'est sûr, c'est ça qui m'a sauvée. Parce que dès le moment où je me suis tournée vers Dieu, mais vraiment avec un cœur pur, un cœur sincère, j'ai été libérée de tout.
Subhanallah.
Vraiment libérée de tout.
Et est-ce que, avant de rentrer du coup, une fois que tu as été libérée, et avant de rentrer dans ton second mariage, est-ce que tu as pris le temps de te réparer un petit peu, de te dire alors la prochaine fois que je me marie, il faut que je comprenne ce que c'est que le mariage, les tenants, les aboutissants, etc. Comment tu as vécu cette période-là ?
J'ai pas pris le temps de me réparer du tout. Du tout, du tout.
Et pourquoi t'as pas voulu le prendre ou la vie a fait que ton mari est arrivé plus tôt ? Comment ça se passe ?
J'avais pas cette notion de réparation. En fait, comme je suis une personne résiliente, derrière un événement, un drame, bah, je remonte tout de suite en selle. Je me répare toute seule, mais je mets un pansement en fait. J'ai mis des pansements, et ça a éclaté beaucoup plus tard. D'accord. Et je me suis remariée très vite.
D'accord.
Très vite même. Ça a été un choix et je pense que c'est Dieu qui m'a guidée parce qu'un an avant de divorcer, je rêvais que j'étais à Guerre du Nord avec un homme qui portait une veste marron et on avait une petite fille. Et quand j'ai rencontré mon mari actuel, ben, il portait la même veste que dans mon rêve et du coup, ça a été une évidence. Ça a été tout de suite, oui, c'est lui, c'est avec lui que je vais me marier, c'est avec lui que je ferai ma vie. Et voilà, et c'est pour ça que tout de suite...
Tu t'es sentie rassurée en le voyant.
Rassurée, je me suis vraiment sentie rassurée à tous les niveaux. Il correspondait à tout ce que je demandais. Quelqu'un qui avait fait des études, quelqu'un qui avait la foi, qui était pratiquant. Et sa présence me rassurait en fait. Et dès le début. Hein, donc,
Et jusqu'à présent ?
Jusqu'à présent, là, ça fait 17 ans.
Machallah. Aujourd'hui, est-ce que ta vision du mariage, elle a évolué ?
Ouais, elle a beaucoup évolué. Je suis plus dans la construction. En fait, on va ensemble. Le mariage, pour moi, c'est aller dans la même direction, construire quelque chose, avoir une base. Mm-hmm. Et c'est plus être actrice, en fait. C'est plus être spectatrice, c'est vraiment être actrice de sa vie de couple, de son mariage. Et tu peux pas faire ta vie avec quelqu'un qu'on t'a imposé. Avec quelqu'un avec qui t'as pas d'avenir, t'as pas de vision de construction. Et en fait, c'est aujourd'hui que je me rends compte qu'en fait, ce mariage, j'ai été voué à l'échec dès le début.
Ah ben,
dès le début. Dès le début, c'était soit je finissais comme mes mères, un mariage sans amour et on subit et parce que voilà, c'est comme ça, tout le monde l'a fait comme ça et sans réflexion. Et je pense que bon, comme mon père aime bien le dire, il me disait tout le temps, oui, ton premier mariage c'était un stage. C'est voilà, il faut que tu le prennes comme un stage parce que tout ce qui s'est passé avant, tu vas pas le reproduire. Après, je dis pas le contraire, j'ai pu commettre des erreurs parce que j'étais pas assez mature. Et aujourd'hui, c'est des erreurs que je vais pas reproduire. Le fait de préserver sa vie de couple, pour moi, c'est essentiel. Je ne donnerai plus l'accès à qui que ce soit à mon mariage, exposer mes problèmes. C'est pas le fait, ça m'a aidé d'un côté, mais ça m'a desservi parce que quand je me suis confiée à ma famille, en fait, j'ai donné l'ouverture au fait que je suis pas maître de ma vie. C'était toujours eux qui décidaient. Et je me suis laissée guider par non, tu vas attendre, tu vas patienter, tu vas faire ci. En fait, voilà, si dès le début, j'avais pris. J'avais tout mis en œuvre pour me sortir de ce mariage, mais seule, sans avoir à passer par ma famille, je pense que j'aurais gagné beaucoup de temps. Mais bon, après, c'est la vie. Hein.
Bien sûr, bien sûr. Mmh. Moi, j'aimerais vraiment qu'on puisse clôturer notre discussion en se rappelant que on va se rappeler plusieurs choses. La première chose, c'est que notre prophète bien-aimé Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais, jamais, jamais levé la main sur aucune de ses épouses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a lui-même attesté que le meilleur d'entre les hommes était celui qui avait un comportement exemplaire avec ses enfants et ses épouses. Donc je ne peux que clôturer en insistant sur le fait que dans nos vies, il faut qu'on essaye de toujours mettre le cultuel avant le culturel, toujours la religion avant le reste, parce que quelque part ton premier mariage, c'est la conséquence en fait de ces mauvais choix là en fait, de se dire oui mais la famille avant tout. Parfois dans certaines cultures, la famille elle a presque quelque chose de sacré. On a peur de la famille, on obéit à la famille, alors qu'en fait c'est des comportements qu'on doit avoir avec le Seigneur. Et c'est important, je pense, de se rappeler que se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est toujours la meilleure des choses à faire et il nous abandonnera jamais. Tu l'as très bien dit durant ton témoignage, tu vois, quand tu t'es tourné vers lui avec un cœur sincère, c'est là que tu as senti les portes s'ouvrir en fait.
Ouais, il m'a jamais abandonné. Vraiment, je sais même pas quoi dire. C'est je pourrais être que reconnaissante toute ma vie de m'avoir sauvée. Ça veut dire que pendant tout ce temps-là, Dieu il savait ce qui m'attendait, mais peut-être qu'il m'a testé, voire ce qu'elle va se retourner, elle va revenir vers moi et je suis revenue et ça a pas manqué quoi. C'est vraiment soulageant même des fois quand j'y pense, je dis mais mince, je peux pas être ingrate et me dire que je suis pas millionnaire et tout, j'ai rien, mais non, je dois pas être comme ça. C'est ce que Dieu a fait pour moi, c'est ma sortie de l'enfer. Une année, les années que j'ai vécues avec mon ex-mari, on aurait dit que ça faisait 50 ans. Et là, les 17 ans, je me réveille, là, ça fait 17 ans que je suis remariée, et je me dis, waouh, c'est passé trop vite.
Est-ce que tu aimerais faire passer un dernier message à des personnes qui peut-être sont dans des mariages difficiles, ont traversé ce que tu traverses ?
De toujours garder espoir et puis de se dire que la vie, elle est belle, elle mérite d'être vécue. Et de toujours se raccrocher à la foi, que même si elle se retrouve seule, il y aura toujours Dieu avec elle. Et c'est ça le plus important.
Je te remercie beaucoup, Mariam, de t'être livrée avec autant d'intensité et de transparence. J'espère vraiment que, comme tu le disais si bien en début d'interview, le livre se fermera enfin, que tu pourras vraiment être à 100% dédié à ta nouvelle union et à ta vie en général et à ta foi. Plus globalement.
Je l'espère aussi et je te remercie de m'avoir accordé ce temps. Vraiment, ça m'a fait beaucoup de bien. J'aurais voulu t'en dire, mais je pense, j'ai dit l'essentiel. Et des fois, ça sert à rien de revenir sur certaines blessures. Il faut avancer. Et j'espère que là, vraiment, ce sera peut-être la dernière fois que j'en parle.
Amine, c'est ce qu'on te souhaite. L'idée, c'était vraiment de laisser une trace. On laisse une trace pour des personnes, pour toi, et puis pour des personnes, encore une fois, qui ont peut-être vécu ça, et pour des personnes qui n'ont pas vécu ça, pour qu'on se rappelle aussi la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala dans certaines de nos vies, en fait. Parce que parfois, on se dit, ma vie, elle est compliquée, etc. N'oublions pas de compter nos cadeaux, on en a beaucoup. Et on a tous nos difficultés, mais on a tous nos facilités aussi, et c'est bien de les voir. En tout cas, je te remercie infiniment, Mariam, pour ta transparence, pour ta douceur. Et puis, on te dit à très vite, Inch'Allah.
À très vite. Merci beaucoup, Madina.
Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Merci.
C'était Halal Love, le podcast qui cherche à s'aimer en Dieu pour semer mieux. J'espère que cet épisode vous a plu. Et j'ai hâte de savoir ce que vous en avez pensé, ce que vous avez choisi d'en retirer. Halal Love, c'est un podcast qui est conçu avec beaucoup d'amour et qui se nourrit du même ingrédient. Si vous souhaitez m'en envoyer un peu, beaucoup, passionnément, dites-le moi avec 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez 10 secondes et laissez un commentaire sympa, ça c'est si vous avez 1 minute. Si vous n'avez pas d'appareil Apple, aucun problème, abonnez-vous sur l'application de votre choix, Spotify, Deezer, Google Podcast ou autre. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous, sur vos réseaux sociaux, auprès de vos proches, de votre famille, de vos amis. Un grand merci à celles et ceux qui le font déjà et ceux qui pensent à moi dans leur doura. Qu'Allah Zawajel vous récompense de la plus douce des manières. Vous êtes géniaux, j'ai pas d'autres mots. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et vous dis à mardi prochain si Dieu veut. En attendant, peace et halal love sur chacun d'entre vous.